Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe, votre agenda culturel de la semaine. Et pour m'accompagner, Lucie, bonjour.
Salut.
Et de quoi tu vas nous parler cette semaine ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de podcasts et de podcasts féministes même.
Et bah ça, je pense que ça va être des très bonnes écoutes en perspective. Et cette semaine, nous, on vous parlera cinéma encore une fois, hein, avec l'association Cinéphile de Blois qui est venue nous présenter Martine Boiteau. Et nous parlerons avec du film Première Solitude et en compagnie de Fanny Jean-Girard qui est psychologue à la Maison des Adolescents. Mais avant tout ça, toutes les informations sont à retrouver sur l'article associé sur le site de la radio studiosef.fr et place à l'agenda de la semaine. Et on commence avec un peu de cinéma.
Avec Cyclic qui propose ce mardi à 20h30 la projection de 8 courts-métrages pour une soirée sur le thème de la vie secrète des planètes. Explorer les planètes qui n'en a pas rêvé, un rêve d'enfant mais pas seulement, un thème qui a toujours fasciné l'homme. Durant cette soirée, on brouille les pistes, sommes-nous sur Terre ou ailleurs, des individus déambulent, se perdent pour mieux se retrouver, les matières et les formes se transforment pour laisser place à d'autres, une soirée pour aiguiser sa curiosité et se laisser porter dans un univers différent. C'est ce mardi à 20h30 dans les locaux de Cyclic Animation à Vendôme. Et toujours mardi ?
Ouais, mais aussi mercredi, pour deux représentations au théâtre Nicolas Pesquine de Rendez-vous Gare de l'Est, avec une mise en scène de Guillaume Vincent. Pour cette pièce, l'auteur a fait une série d'entretiens avec une personne bipolaire, cette maladie faisant passer de phases maniaques à des phases dépressives. Il en tire un monologue à flux tendu, dans lequel une idée en emmène une autre par association. On suit le fil de la pensée d'une personne malade. La comédienne est assise, on rit devant ses élucubrations, mais est-ce drôle ? Elle nous raconte sa vie quotidienne, mais aussi les médicaments, les crises et les internements. Elle n'oublie pas de parler de l'étranger qui vit en elle, avec émotion et humanité. C'est mardi à 19h30, mais aussi mercredi à 20h30 au théâtre Nicolas Pesquine. Et on va rester dans le théâtre.
Avec la pièce À vif, mise en scène par Jean-Pierre Barraud et écrite par Kerry James, qui sera en représentation ce jeudi 28 février à 20h30 à la Halle au Grain. Kerry James, si vous aimez le rap, ça devrait vous dire quelque chose. Il est considéré aujourd'hui comme une figure emblématique du rap politique francophone. On le retrouve dans cette pièce pour une performance un peu éloignée du rap, mais pas tant que ça, vous allez voir. La pièce commence par une question. L'État français est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Cette question est posée aux deux finalistes du concours d'éloquence de formation du Barreau de Paris. Le premier finaliste s'appelle dans la pièce Yann Jarodière, blanc issu d'un milieu aisé qui plaidera le oui. Le second, Souleymane Traoré, noir qui a grandi dans une de ces banlieues, plaidera le non. S'ensuit une joute verbale s'approchant d'une battle hip-hop, venant questionner nos convictions. C'est ce jeudi à 20h30 à la Halle au Grain. On continue en musique ?
Avec ce jeudi aussi à 20h30 au troisième volume du Minotaure à Vendôme, un concert de Pigalle, groupe formé en 1982, avec notamment François Adji Lazaro, qui a relancé depuis 2014 une tournée sans fin avec Pigalle. C'est un peu ce genre de groupe inclassable dans lequel on met de l'accordéon dans le punk, de la musette dans le rock, un rock néanmoins énervé, teinté de poésie incarnée et réaliste. Pour citer Figure Libre, Pigalle est punk, Pigalle est humaniste, Pigalle est notre bar de quartier choyé. C'est donc jeudi à 20h30 au Minotaure. On parle maintenant cinéma d'animation japonais.
Oui, les lobbies s'organisent samedi une après-midi autour du grand réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Ça commence dès 16h avec la projection du film Le Château de Cagliostro, qui nous raconte l'histoire du petit-fils d'Arsène Lupin qui cambriole un casino, s'emparant ainsi de plusieurs liasses de fausse monnaie. Et il ne s'arrête pas là et remonte la piste de la fausse monnaie jusqu'au château de Cagliostro, dans lequel une princesse enfermée semble détenir la clé d'un fabuleux trésor. Ensuite, à 18h, une conférence sur le maître de l'animation japonaise par le spécialiste Rui Pasquale. Et la journée se termine à 19h par la projection du documentaire Neverending Man, Hayao Miyazaki, du réalisateur Kaku Arakawa, qui a suivi pendant 2 ans les studios Ghibli et Miyazaki. C'est samedi à partir de 16h et c'est au Lobis.
Et voici plein d'activités et de sorties à faire cette semaine et plus encore dans l'article. Je vais maintenant me tourner vers toi Lucie et te donner la parole et même te la laisser.
Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plusieurs podcasts parce que c'est un format de médias que je trouve vraiment à la fois agréable et pratique car on peut l'écouter partout et n'importe quand. Et c'est un média que je trouve d'autant plus agréable car il a permis depuis quelque temps aux femmes de pouvoir prendre la parole sans par exemple être jugées sur leur physique comme on le voit régulièrement avec des vidéos YouTube. Dans les podcasts, on ne les voit pas, donc le seul truc important et qui devrait l'être tout le temps en fait, c'est la qualité de ce qu'elles racontent. En plus, lorsqu'on sait que, que le temps de parole des femmes dans les médias est réduit à 22%, laissant les quelques 78% restants aux hommes, et surtout que pendant ces 22%, que dans ces 22% de femmes, on arrive quand même à leur couper la parole et à ne pas les laisser parler, on se dit que le podcast vient peut-être valoriser les voix muettes et ainsi pallier le manquement des médias. Donc les podcasts dont je vais vous parler explorent différentes dimensions du féminisme, mais surtout donnent une voix aux femmes et elles ont beaucoup de choses pertinentes à dire si jamais vous en doutiez. Je vous ai donc fait une petite sélection non exhaustive et sans doute très subjective des meilleurs podcasts donnant une voix aux femmes et au féminisme. Alors je vais commencer tout de suite avec le podcast La Poudre de Lorraine Bastide qui reçoit deux fois par mois une actrice, une militante ou une femme politique dont l'objectif qu'elle parle d'elle, de leur enfance mais aussi de leur carrière et de leur rapport à leur corps. Ce sont des échanges profonds et intimes pour tenter de comprendre ces parcours de vie qui leur ont permis d'arriver à là où elles en sont aujourd'hui. Un podcast sans tabou, une bouffée d'air frais dans le respect de la parole de chacune. On continue avec dans le même style le podcast « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » de Clémence Bodoc, rédactrice en chef de Mademoiselle.com. Ce podcast, c'est le portrait de femmes ordinaires au destin extraordinaire. Il part de l'idée que ce n'est pas parce qu'on a été éduqué à être des petites filles sages qu'on est condamné à rester des images. Et c'est ce que les invités nous montrent à chaque épisode, on retrace aussi bien leur parcours professionnel que leur parcours en tant que femme. Les interviews sont bien menées et sans tabou. Enfin, moi je trouve que vraiment le podcast, c'est vraiment un support qui permet d'entrer dans des sujets intimes sans être intrusif et ça fait du bien. On continue avec un podcast d'Arte Radio maintenant, il s'appelle Un podcast à soi et est animé par Charlotte Bien-Aimée. Alors c'est une série d'émissions, même de documentaires audio qui abordent des thématiques sur le genre et l'égalité des sexes. Chaque épisode est un mélange de récits intimes, de paroles d'expertes et de réflexions personnelles. Et ce podcast offre un éclairage nécessaire et passionnant sur le sexisme ordinaire dans nos sociétés et nous permet de mieux saisir les enjeux égalitaires. On parle aussi des hommes et des enjeux de la masculinité. Et je profite de parler de la masculinité pour vous parler du dernier podcast, un peu différent mais tout aussi important. Il s'appelle The Boys Club et est animé par Mimi et Fab de chez Mademoiselle. Je vous parlais d'un contenu différent car ici ce sont des hommes qui parlent de leur rapport à leur genre, de masculinité et de l'injonction de la virilité. Dans ce podcast, on parle égalité et on veut effacer l'archétype du mâle dominant. Spoiler, oui, les hommes pleurent. Voilà, c'était ma petite sélection de podcasts féministes et féminins, mais qui, je tiens à le rappeler, ne s'adresse pas qu'aux femmes. Et donc, si vous avez envie d'entendre des expertes parler du sujet, je vous laisse écouter et je vous mets tous les liens vers les podcasts dans l'article de studiodev.fr, comme d'habitude.
Ça sera des écoutes qui vont être très, très intéressantes.
Je pense.
Clairement, moi, je vous le conseille aussi. Et en parlant d'écoute, qu'est-ce que tu as choisi comme musique ?
Alors, j'ai choisi de mettre, là, pour la pause musicale, une musique de Kerry James qui s'appelle « Lettre à la République ». Et donc, Kerry James, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, on vous en parlait dans sa pièce « À vif » qui passe à la Lograin jeudi. Et je vous parlais d'une figure emblématique du rap politique. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très présent dans le texte de ce son. Et vous allez découvrir un texte, du coup, sans langue de bois. Donc après, on aime ou on n'aime pas, c'est Kerry James, Lettre à la République.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous,
part depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Qu'est-ce qui se passe?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Et on vient d'écouter Kerry James, Lettre à la République, et aller retrouver Kerry James dans son spectacle à Vif, à la Halograin, ce jeudi. Et on fait maintenant un détour cinéma avec Cinéphile. Donc on est avec Cinéphile, donc on est avec Martine Boiteau qui est membre de Cinéphile. Bonjour.
Bonjour.
Et on est avec Fanny Jean-Girard qui est psychologue à la Maison des Ados.
Bonjour.
Et vous allez nous expliquer donc pourquoi vous êtes là. Donc on va parler du film après.
D'accord. Alors moi je travaille à la Maison des Adolescents, qui est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, qui est un service de l'hôpital et qui est essentiellement un lieu de prévention en fait pour les adolescents et leurs familles. Donc c'est un lieu qui est ouvert, donc effectivement on peut venir de manière anonyme, on peut venir avec ou sans ses parents. Il y a des consultations spécialisées autour de la sexualité, de la consommation, de la diététique. Les ados peuvent venir parler de tout, poser des questions voilà, sur leurs problématiques.
Martine, est-ce que vous pouvez nous présenter Cinéphile?
Alors, Cinéphile, c'est une association 1901 qui a pour but de diffuser, d'apporter au public des films qui ne sont pas forcément des films qui sont repérés par les médias immédiatement. Nous sommes hébergés au Lobis. Nous programmons des films qui sont art et essai, recherche, on va dire, des films qui sont parfois difficiles, mais qui, sans nous, n'auraient pas de vie, en fait. On passe des documentaires, des films de patrimoine, des films à thématique psy, des films sur des pays du monde, etc. Mmh. Qui sont complémentaires avec la programmation qu'effectue Romain au Lobis. Voilà.
Et vous éditez une revue. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots dessus?
Alors, c'est la revue Travelling, qui sort tous les deux mois, parce que la programmation se fait tous les deux mois, et dans lequel on annonce les films qui vont avec les horaires, etc. Et dans lequel aussi les membres du conseil d'administration qui ont vu préalablement les films, soit en festival, soit avec des liens que les distributeurs nous fournissent, écrivent. Voilà, on écrit dedans.
Et donc tous les films sont détaillés avec un résumé et qui vient nous inciter à aller les voir.
C'est le but.
Et si je ne me trompe pas, on peut adhérer à Cinéphile pour avoir...
Voilà, ça marche aussi, ça marche avec des subventions des collectivités territoriales, la mairie, etc. Mais aussi avec des adhérents, c'est-à-dire qu'on donne une carte d'adhérent qui donne un tarif préférentiel sur les séances. 5 euros. Ça voilà.
De quoi aller voir plein de films au cinéma. Et si je ne me trompe pas, vous faites 2 quinzaines thématiques par an.
Oui.
Donc il y a une année sur le cinéma italien, le cinéma britannique, hispanique et autres.
Vraiment... Une année, c'est cinéma... le cinéma italien, c'est en lien avec l'ACFIDA, qui est une association aussi italienne. Et là, c'est tous les ans. Donc, il y a, je sais pas, 7-8 films qui sont proposés, en VO, évidemment. Et puis, une année sur deux, c'est un cycle soit hispanique, soit britannique, qui est aussi beaucoup en lien avec les enseignants. C'est-à-dire qu'ils emmènent les classes et...
Et on va parler un peu de la programmation de cette semaine de cinéphiles, avec deux films. Le premier, c'est L'envers d'une histoire de Mila Turajilić. Pas facile à prononcer. Donc c'est une histoire de Belgrade, sur Belgrade et une famille et ce qui se passe dans ce pays. Et c'est le 25 février, à 20h30 au Lobis. Et le deuxième film, on va parler un peu plus longuement, donc on revient avec des classes, c'est Première solitude de Claire Simon. Donc ce sera le 27 février au Lobis à 20h30. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film?
Oui.
Un peu plus.
Alors, d'abord, Claire Simon, c'est une femme géniale qui fait du documentaire depuis un certain nombre d'années et qui, dans ce film, a proposé à des élèves qui sont en option cinéma, c'est à Ivry-sur-Marne, et donc elle leur a proposé, en lien avec leur prof, de faire un petit court-métrage où elle fait des portraits, en fait. Et puis, à partir de ces portraits, elle a découvert une matière assez riche et elle a eu l'idée de faire un long. Et ce long-métrage, donc Première solitude, c'est un film, on va dire, un peu... C'est son film, mais c'est plutôt participatif dans le sens où... Les élèves, une dizaine d'élèves en option cinéma, se mettent en scène eux-mêmes, mais aussi font le son, ont participé au montage,
à l'écriture,
etc. Donc c'est un film où on entend les ados parler, se parler, et ce n'est pas un film où on parle des ados. C'est vraiment, c'est ça la grande force de ce film, en fait.
Un film qui vient des adolescents et qui parle d'eux-mêmes.
Voilà, elle leur a donné au départ un peu une consigne, c'est-à-dire qu'au départ, ils ne se connaissaient pas. Et donc, ils devaient, par petits groupes ou en duo, installer un dialogue. Donc, c'est beaucoup sur l'écoute et la parole, en fait. Et essayer de se découvrir de telle façon. Et donc, elle a été assez surprise du résultat. Parce qu'elle pensait qu'ils allaient parler de leurs camarades, des profs, etc. Et pas du tout, en fait. Ils parlent beaucoup de la famille, de leur famille. C'est pas un film psy, c'est des adolescents, on va dire, normaux, mais qui parlent quand même de la souffrance familiale, de l'incommunicabilité aussi avec les parents. Et en ce sens, c'est presque de la sociologie, ce film.
C'est un portrait de jeunes qui parlent de leur solitude au pluriel. Qu'elle soit diverse. Et donc, suite à la projection, il y a un débat organisé avec la Maison des Adolescents. Comment a été créée cette rencontre et comment vous est venue l'idée?
Après avoir vu ce film à Cinéphile, on s'est dit, mais c'est la première fois quand même qu'on a des paroles d'adolescents de cette force-là. Et on s'est dit, mais qui pourrait aussi témoigner de ces paroles, de la pensée des adolescents actuels. Et donc, on a pensé à la Maison des Adolescents, évidemment, puisque là-bas, les ados, ils y vont gratuitement, etc., comme Fanny l'a expliqué.
Oui, puis ce qui est intéressant dans ce film, moi, je trouve, c'est que c'est pas des adultes qui interrogent des ados, c'est des ados qui parlent entre eux et qui vraiment... Claire Simon, je trouve qu'elle a ce truc où elle réussit à capter ce que les ados ont du mal à exprimer, en fait, aux adultes. Et alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Martine, c'est pas un film... psy, mais ça parle des ados. La crise d'ado, c'est pas une maladie, évidemment, mais il se passe des choses. Il y a des fragilités. Et ce film, ça capte bien tout ça, la fragilité, la séparation, avec la question de la famille, les ruptures familiales. Et quand on est ado, on est un peu fragile, quand on est dans un contexte un peu fragile. Et c'est vrai que Claire Simon, elle capte ça, parce que c'est entre eux, et c'est entre eux qui peuvent dire ce qu'ils ressentent vraiment, tout ça. Je ne suis pas sûre que C'est ça, c'est comme tu dis, son dispositif. Quoi. C'est pas sûr que si c'était des adultes qui interrogeaient les jeunes, c'est pas sûr qu'on aurait la même substance qui s'en dégagerait. Et c'est très émouvant à ce niveau-là, je trouve.
Puis c'est pas du tout. Enfin, c'est évidemment il y a de la souffrance quand on communique pas, etc. Mais la façon dont ils ont de se parler entre eux. Et de s'écouter entre eux, finalement, c'est assez péchu, plein d'énergie. C'est des jeunes qui sont en mouvement. Enfin, et elle va aller filmer dans des petits coins du lycée où on se rend compte que finalement le lycée c'est un lieu de parole extraordinaire. Et elle a su capter ces moments-là. Avec un peu, bon, il y a de la musique. Parfois, on voit une jeune fille qui danse aussi. Ouais. Disons que c'est. Il n'y a pas que de la souffrance, quoi. Il y a aussi plein de choses. Voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir comment vivent nos adolescents aujourd'hui. Comment ils parlent de leurs parents aussi. Ça, c'est assez marrant.
Oui, c'est vrai. Ouais. On sent qu'il y a de l'inquiétude hein, chez ces jeunes. Il y a de l'inquiétude de l'avenir, la peur de l'avenir, elle est exprimée. Mais c'est pas, comme on dit, c'est pas du pathos, quoi. C'est gai, il y a plein de vie. Et, c'est parce que, justement, ils sont entre eux. Et
donc, ouais. Le débat qui va se dérouler à la suite du film va parler de quoi exactement ? Un petit mot, ou est-ce que vous savez pas du tout ? Et ça va être en fonction de ce que va dire le public.
Un petit peu.
D'habitude, à Cinéphile, pour les débats, on invite surtout les réalisateurs ou ceux qui sont proches du cinéma. Donc, il ne faut pas qu'on oublie la question du film parce que, voilà, comment il a été fait, etc. Mais le fait d'inviter aussi, parce que ça arrive souvent qu'on invite aussi des associations locales, des gens qui travaillent, que ce soit dans la justice, etc. Puis... Ce dont parle le film aussi, c'est quand même ce que je disais tout à l'heure, une sociologie de l'adolescence qui est, c'est-à-dire c'est une parole intime mais qui dépasse l'intime, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait elle voulait leur faire parler de la solitude et en fait ils parlent de, comme elle dit, de l'absence des pères ou de la famille disloquée. Et ça, c'est quand même un phénomène, même blésois, hein, on va dire. C'est une sociologie de la famille et de l'adolescence qui pourrait être intéressante et Fanny pourrait en parler.
Et ouais. Qui peut peut-être, alors des clés, c'est peut-être le mot est fort, mais ça peut donner un peu comme ça, des clés, ça peut parler aux parents, sûrement. C'est, d'entendre ces ados parler, ça peut être un peu... instructif, je ne sais pas, en tout cas sur le plan parental, effectivement, sur le plan sociologique, ça peut être une autre parole qui peut être entendue par des parents qui viennent voir le film.
Et donc du coup, c'est plus une image qui est valorisée de l'adolescent par rapport aux images qu'on a un peu stéréotypées dans les films qu'on peut voir d'habitude, en fait.
Oui, parce que ça part d'eux. C'est eux qui sont au centre du film, c'est pas un regard sur eux. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Et en fait, ils ont aussi... C'est vrai que vous avez raison de le souligner parce que la plupart du temps, on voit des adolescents qui parlent avec leur langage à eux,
ça
un peu brut, etc. Là, c'est un langage plutôt...
C'est tendre.
Ils ont une façon de s'exprimer avec des mots, pas seulement des onomatopées, comme on aurait tendance à vouloir le faire croire dans les films qu'on voit sur l'adolescence. C'est des mots qui sont riches, qui sont descriptifs, qui sont plus proches de leur pensée et de leur. C'est des mots qui sont justes, je trouve. Voilà.
Et est-ce que ce film peut être une porte d'entrée pour le dialogue ou parler d'autres choses entre les ados et leur famille ?
Certainement, oui, ça fait certainement écho. C'est des ados qui vivent des situations, on va dire, que tout le monde, enfin, toutes les familles, plus ou moins, peuvent vivre. Effectivement, l'absence d'un père ou l'absence d'une mère, les séparations, les ruptures familiales, les familles recomposées... les histoires douloureuses, qui ne sont pas forcément présentes dans toutes les familles, mais... C'est un questionnement. Ils parlent de leur questionnement, les ados. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça va au-delà du stéréotype, quoi, de l'ado un peu agressif, un peu rejetant du monde des adultes. Là, on est vraiment dans... Ils ont des choses à dire vraiment très profondes. Et on le voit dans ce film, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un regard très tendre, où l'inquiétude est palpable, mais en même temps, ça donne plein de... d'espoir, je trouve. Ça donne un autre regard sur l'adolescence.
C'est-à-dire ça, c'est aussi le génie de Claire Simon, c'est-à-dire qu'il y a... En 92, elle avait filmé dans une cour de récréation, ça s'appelait Récréation, où elle avait mis sa caméra devant des enfants qui jouaient, qui se battaient, et ça construisait comme un récit qui était pareil, en dehors des adultes. Et là, en fait, les adultes sont complètement hors champ, on les voit pas, c'est pas la question. Alors qu'en fait, ils vont sans arrêt parler de leurs parents. Okay. C'est ça qui est un peu...
Ils sont omniprésents, les adultes.
Ouais. Dans leur discours, ouais. Ils sont là. Bon, pas seulement, il y a aussi les histoires d'amour, enfin, l'inquiétude, etc., de grandir, qui est tout à fait normal. Mais elle installe quand même un cadre, un dispositif assez rigoureux. C'est-à-dire qu'on voit toujours dans l'image deux ou trois ados qui reviennent dans des lieux différents, qui s'échangent aussi entre ceux qui écoutent et ceux qui parlent. Et ce cadre-là, très rigoureux, finalement, il libère la parole.
Donc c'est le film Première Solitude, je vais le rappeler, c'est le 27 février, à 20h30 au Lobis.
Voilà.
Et allez le voir, vraiment.
Oui, allez le voir.
Est-ce que vous auriez un mot de la fin sur Cinéphile ou sur ce film ?
Bah écoutez, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Hein. En fait, on passe une soixantaine de films par an et il y a un débat pratiquement une fois par mois. En général, c'est un peu le rythme. Et l'été, les films ne sont plus dans le cinéma, mais ils sont en plein air. Voilà, je dis ça parce qu'il y a du soleil.
Bien, merci bien pour cette présentation. Allez voir Première Solitude, allez voir Cinéphile. Et aller à la Maison des Adolescents aussi.
Oui, qui se trouve à Blois.
Merci bien.
Merci à vous.
Et on remercie chaudement Cinéphile d'être venu nous présenter de ce film. Et clairement, aller au cinéma, je vais le redire. C'est trop bien. Et nous voici maintenant à la fin de cette émission. Et oui, déjà ou pas d'ailleurs. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site, sur un article avec tous les liens. Allez-y. Et merci à toi, Lucie, pour la rédaction.
Eh bien, de rien.
Et on vous dit à la semaine prochaine, toujours à 12h30 et vendredi pour un agenda du week-end. Et on vous quitte avec Music Box, Harp and Hammer Dulcimer de Winter Gatan.